Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre confiance. L'heure est venue de faire le point sur l'actualité de ce lundi 10 août 2026. Fait marquant, décisions importantes, enjeux sécuritaires et sociaux, nos équipes vous apportent l'essentiel de l'information dans le respect de faits et de la vérité. C'est le journal de 18h sur Radio Kapi dont voici les titres. Suspicion levée, le bateau contrôlé près de Kinshasa obtient le feu vert. Signalé par précaution, le navire a fait l'objet d'un contrôle approfondi. Résultat, aucun cas d'Ebola identifié et reprise normale de la navigation. Première mission à Djougou. Le général Gabi Kassongo à l'écoute des populations dans ces territoires meurtris par des années de conflits. Plus de 1,7 million de déplacés restent en situation de vulnérabilité. La mission vise à renforcer le dialogue et les efforts de stabilisation. Kindu, un projet de prise en charge aux résultats encourageants. Grâce à une assistance médicale gratuite, plus de 1000 survivants de violences sexuelles ont reçu de soins adaptés. Jean-Claude Kayumba Chabani, invité du journal, présente les avancées réalisées tout en soulignant le besoin persistant. La peur d'Ebola n'aura été que de courte durée. Le bateau placé sous surveillance aux abords de Kinshasa après une alerte sanitaire a finalement reçu les feux verts pour reprendre sa navigation. À son bord, aucun cas d'Ebola n'a été détecté selon le ministre de la Santé publique Roger Samuel Nkamba. L'alerte avait été déclenchée après le signalement d'une embarcation supposée en provenance de Kisangani, immobilisée 65 km de Kinshasa. Le bateau a fait l'objet d'inspections et d'examens sanitaires approfondis. Résultat, aucune infection suspecte n'a été constatée. Les autorités ont aussitôt levé les restrictions imposées au navire. Nous retrouvons à présent le ministre Roger Samuel Nkamba dans un extrait recueilli par Alain Hirung.
Nous avons fait arrêter le bateau et évaluer tous les passagers. Il y en avait 7 qui présentaient des symptômes de maladie ordinaire, mais nous les avons quand même testés. Les tests sont tous revenus négatifs. Le bateau, donc, nous l'avons finalement libéré. Mais d'autre part, nous avons installé de manière permanente maintenant, à ce point-là, donc à 65 km de Kinshasa, un système de surveillance de santé qui va stopper tous les bateaux qui descendent, tous sans exception, qui va checker tout le monde pour nous assurer effectivement qu'il n'y ait pas de risque de contamination de Kinshasa par cette voie-là. Et ensuite, nous allons émettre, à partir de la semaine qui commence, un formulaire pour tous les marins, pour tous ces gens qui prennent des bateaux, pour nous signaler leur départ et le nombre de personnes à bord, s'il y a des cas qui touchent à la santé publique, quel que soit ces cas. Donc nous allons avoir un formulaire beaucoup plus robuste et une surveillance plus robuste. Dans tous les cas, tous ces bateaux seront arrêtés donc à 65 km.
Pendant que Kinshasa souffle après une fausse alerte, les Nord-Kivu, lui, restent confrontés à une menace bien réelle. Ebola gagne du terrain à Lubero. Après Masereka et Moussienene, une troisième zone de santé du territoire vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Face à cette évolution, l'administrateur du territoire, le colonel Alain Kiwewa, appelle la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les équipes de riposte. Son message est clair. Au moindre symptôme, il faut se rendre immédiatement dans un centre de traitement. Pour lui, la rapidité de la prise en charge reste déterminante pour sauver des vies et freiner la propagation de la maladie. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Nous venions d'enregistrer dans cette zone de santé de Lubero ce premier cas confirmé du virus Ebola. Elle devient pratiquement la troisième zone de santé touchée par Ebola dans les territoires de Lubero, après la zone de santé de Masereka et de Moussienene. Je voudrais dire ou demander à cette population d'abord de reconnaître que cette maladie existe bel et bien. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas Ebola business. Dès que vous constatez que vous avez des signes qui correspondent à cette maladie, directement vous pouvez aller à l'hôpital, vous allez dans un centre de santé et on va vous prendre en charge directement au cas où on constatait que vous avez été confirmé positif de cette maladie d'Ebola. Donc la maladie Ebola n'est pas vraiment une fatalité. Nous avons déjà deux cas de guérison dans d'autres zones de santé telles qu'à Moussienene et à Masereka.
Retour à la normale dans les structures de santé. Le syndicat national des médecins du Congo suspend la grève lancée le 3 juillet dernier et appelle ses membres à reprendre le travail dès ce lundi. Le CIMECO affirme avoir obtenu des avancées concrètes à l'issue des discussions avec le gouvernement. Parmi elles, l'intégration de la paye complémentaire à la paye ordinaire ainsi que la mécanisation de plusieurs médecins jusque là non pris en charge. Les explication du docteur Juvenal Mwanda, secrétaire général du CIMECO, dont cet extrait recueilli par Alain Irunga.
Le bureau exécutif national du CIMECO informe le public qu'à la suite des négociations tenues le 17 juillet 2026 entre le banc gouvernemental et le banc syndical de médecins, le gouvernement de la République a pris des engagements dans les processus de mise en œuvre, a fait l'objet d'une évaluation lors des assemblées générales et des conseils provinciaux du CIMECO tenus le vendredi 7 août 2026. Au regard des avancées significatives enregistrées, notamment l'intégration effective de la paye complémentaire à la paye ordinaire de juillet 2026, la mécanisation de quelques médecins à la paye de juillet 2026, la convocation des travaux d'alignement de 800 médecins en paye complémentaire et la reprise affirmée de la régularisation de la situation administrative, les médecins membres du CIMECO ont levé l'option de suspendre la grève observée depuis le 3 juillet 2026 et de reprendre totalement, dès ce lundi 10 août 2026, la prestation des soins dans tous les services sanitaires de l'État en vue d'une poursuite sereine du dialogue social et du processus de mise en œuvre des autres engagements pris.
C'est un territoire marqué par les armes, les déplacements forcés et les cicatrices de plusieurs années de conflits. Djougou, en Ituri, a accueilli ce week-end le gouverneur militaire, le général Gabi Kassongo, pour sa première mission de terrain dans cette partie de la province. Au-delà du symbole, l'objectif est clair, entendre les populations, recueillir leurs attentes et relancer l'espoir d'un retour à la stabilité. Car derrière les statistiques se cachent plus d'un million 700 000 déplacés repartis dans 74 sites, confrontés chaque jour à la précarité et à l'incertitude. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
À Djougou, cette visite intervient dans un contexte marqué par plusieurs années de violence. L'insécurité a entraîné le déplacement de nombreuses familles, mais aussi le départ de plusieurs autorités politico-administratives et services de l'État vers Bounia. Pour la société civile de l'Ituri, la présence du gouverneur sur le terrain constitue une occasion de mieux comprendre les réalités vécues par les populations et surtout d'apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations. Dieudonné Lossa, coordinateur provincial de la société civile Force vive de l'Ituri.
Nous lui souhaiterions de donner l'état d'écouter la population. Qu'est-ce qui fait que cette situation de l'insécurité perdue dans Djougou? Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas quitter, décident de déplacer après dans leur village? Et aussi pour écouter le service de sécurité, et ces problèmes doivent être résolus avec sa présence.
Au-delà de la sécurité, les habitants attendent notamment la fin des barrières et des tracasseries, le retour des autorités et des services de l'État dans leurs entités, ainsi que des conditions favorables au retour des déplacés dans leur village. À Djougou, cette première visite du gouverneur est donc perçue comme une étape importante, mais la population attend désormais que les préoccupations exprimées sur le terrain soient suivies d'actions concrètes. Bounia, Jean-Claude Doki, Dile, Radio Kapi.
Derrière les murs de la prison centrale de Walikale au Nord Kivu, un drame silencieux s'y joue semaine après semaine. Depuis janvier 2026 au moins, un détenu y perdrait la vie chaque semaine selon plusieurs sources concordantes. Défenseurs de droits humains et personnel médical pointent des conditions de détention extrêmement précaires. Manque d'assistance médicale, insuffisance alimentaire et surpopulation chronique. Ils réclament une intervention rapide des autorités pour éviter de nouvelles pertes en vues humaines. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Selon des sources médicales ayant requis l'anonymat, la prison centrale de Walikale est prévue pour une centaine de détenus, en héberge actuellement 372, dont 5 femmes. Les pensionnaires y vivent dans des conditions précaires. L'établissement ne dispose ni des dispensaires ni des personnels soignants permanents, alors que plusieurs détenus souffrent notamment de malnutrition aiguë sévère, du paludisme et des maladies de la peau. La même source affirme que les évacuations vers l'hôpital général de référence de Walikale interviennent souvent tardivement, ce qui contribuerait à enregistrer au moins un décès par semaine. Selon une organisation locale de défense des droits humains, la surpopulation oblige certains détenus à dormir à même le sol. Elle appelle à accélérer les traitements des dossiers judiciaires, soulignant que de nombreux pensionnaires restent en détention préventive. La prison accueille des détenus de Walikale, mais aussi de Lubuto, Maniema, de Masisi et de certaines zones du Sud Kivu. Les autorités pénitentiaires et judiciaires n'ont pas encore réagi à ces allégations. Malgré plusieurs sollicitations, leur version des faits n'est pas encore connue.
À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inquiétude grandit dans plusieurs quartiers. Des groupes de jeunes délinquants, communément appelés Biongozi, sont accusés de multiplier les vols, les agressions et autres actes de violence, alimentant un sentiment d'insécurité parmi les habitants. Face à cette situation, la population appelle les autorités à renforcer la présence des forces de l'ordre et à intensifier les opérations de terrain pour mettre fin aux activités de ces bandes. Les détails avec Paulin Munanga.
Plusieurs quartiers de la ville de Kolwezi demeurent sous l'emprise de ces gangs qui y imposent leurs lois. Il s'agit notamment des quartiers Kapata, Moussonoï, Tchaboula, Kanina, Ewabora, Saba, 5 ans ainsi que de la cité Jekamine. Selon plusieurs témoins, ces jeunes circulent en groupe et opèrent principalement pendant la nuit. Ils se livrent à des actes de vandalisme, n'hésitant pas à saccager ou à incendier des habitations et des boutiques. Ils sont également accusés de vols et d'agressions contre les habitants. D'après des sources locales, ces délinquants se déplacent souvent munis d'armes blanches. Vendredi dernier, plusieurs maisons du quartier Tchaboula ont été la cible de cambriolages attribués à ces gangs. Une victime de l'un de ces cambriolages exprime son indignation. Je suis allé au travail et je n'ai rien trouvé dans ma maison qui a été visitée par des bandits. Je ne suis pas un chégué, mais regardez comment ils ont abîmé ma maison. Je suis un responsable. Je vais dormir où? Les postes téléviseurs, les chaises, les habits, la mousse, tout a été emporté. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction des autorités de Kolwezi. Les Biongozi, un mot swahili signifiant guide ou chef de file, seraient pour la plupart des créseurs artisanaux organisés en bande selon nos sources. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
À Kasangulu, le spectre des incendies refait surface. Un violent sinistre a ravagé dimanche plusieurs maisons commerciales, relançant les inquiétudes sur les capacités de réponse face aux catastrophes dans cette cité du Congo central. Alors que Kasangulu est traversé quotidiennement par des camions transportant du carburant et d'autres produits hautement inflammables, la cité ne dispose toujours pas de camions anti-incendie. Une situation qui préoccupe les habitants, lesquels plaident pour le renforcement des moyens de secours afin de protéger les personnes et leurs biens. Les détails avec Élise Gavira.
Selon plusieurs témoins, l'incendie est parti d'un véhicule transportant du carburant à l'entrée de la gare de Kasangulu. Après l'éclatement d'un pneu, le véhicule a perdu l'équilibre. Les produits qu'il transportait se sont déversés sur les étals installés le long de la route, provoquant un incendie qui s'est rapidement propagé à plusieurs maisons commerciales. Cet incident a causé plusieurs dégâts matériels. Au moins 7 maisons commerciales ont été ravagées par les flammes. Plusieurs personnes ont également été brûlées, dont un enfant. Elles ont rapidement été acheminées vers des structures sanitaires pour une prise en charge appropriée. Dans la foulée, des cas de pillage ont été signalés. Profitant de la panique, certains jeunes ont emporté des biens provenant de plusieurs commerces touchés par l'incendie. Pour les habitants, ce sinistre relance une fois de plus la question du manque de moyens des secours à Kasangulu. À chaque incident, les habitants sont contraints de se mobiliser eux-mêmes pour tenter de maîtriser les flammes avant l'arrivée éventuelle des secours. La population appelle ainsi les autorités provinciales et nationales à doter rapidement Kasangulu d'un camion anti-incendie et à renforcer les capacités de la protection civile afin de mieux faire face à ce genre de catastrophes. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Une nouvelle tragédie routière secoue le centre du pays. Au pont Kaluebo, sur la nationale numéro 1, un camion chargé de voyageurs et des marchandises a basculé dans la rivière samedi. Le bilan reste préoccupant. Au moins un décès confirmé, plusieurs blessés et une dizaine de personnes portées disparues. Alors que les familles attendent des nouvelles, les équipes de secours poursuivent les recherches. Le pont avec André Katindinga Lamouloumé.
Selon les sources locales, les camions accidentés effectuaient la liaison entre Chicapa et Kananga. Grièvement blessé lors du drame, le gérant du véhicule a succombé à ses blessures après son évacuation vers une structure sanitaire. Les autres blessés ont été pris en charge dans les centres de santé le plus proche. Pendant ce temps, les équipes de secours poursuivent les recherches pour retrouver les personnes toujours portées disparues. Les bilans demeurent provisoires. Le nombre exact de passagers qui se trouvaient à bord du camion ainsi que celui des blessés et des disparus n'a pas encore été officiellement établi. Cet accident relance également les débats sur l'état des infrastructures de franchissement de la rivière Kalwebo. Sur place, deux ponts se font face. L'ancien ouvrage, toujours utilisé par les usagers, est jugé vétuste et peu sécurisé par plusieurs habitants. À quelques mètres de là, un nouveau pont a pourtant été entièrement achevé, mais il n'est toujours pas ouvert à la circulation. Une situation qui suscite l'incompréhension des nombreux usagers, lesquels appellent les autorités compétentes à accélérer sa mise en service afin de renforcer la sécurité sur cet axe routier très fréquenté et d'éviter de nouveaux drames. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La Colombie a été frappée ce lundi 10 août par un puissant séisme de magnitude 7,4. La secousse enregistrée à 7h34 heure locale a eu pour épicentre la région de San José del Palmaré dans le département du Chocó sur la côte pacifique du pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins 18 morts à Pereira dans l'ouest de la Colombie. À Cali, la troisième ville du pays, une vingtaine de bâtiments se seraient effondrés. Des personnes serait encore coincé sous les décombres alors que les opérations de secours se poursuivent. Les autorités évaluent l'ampleur des dégâts à l'aide de drones. Des images diffusées par les médias locaux montrent plusieurs immeubles endommagés, des façades détruites ainsi que des habitants mobilisés pour porter assistance aux victimes. Face à l'urgence, le président colombien Abelardo de la Espriella a ordonné la mise en place d'un poste de commandement unifié chargé de coordonner les opérations de secours et l'aide aux sinistrés.
L'invité.
L'invité de ce journal est Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire à Kindu, dans la province du Maniema. Plus de 1000 survivantes et survivants de violences sexuelles ont bénéficié d'une prise en charge médicale gratuite grâce à un projet porté par cette organisation. Alors que cette initiative touche à sa fin, de nombreux défis restent à relever pour garantir une assistance durable aux personnes affectées. Quel bilan tirer de ces projets, quels enseignements en tirer et quelles perspectives pour la suite? Jean-Claude Kayumba Chabani répond aux questions de Florence Kizalunga. Suivez.
Jean-Claude Kayumba, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous arrivez fin projet assistance d'urgence en protection aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé de Salamabila. Dites-nous, qu'est-ce qui a été mené là comme activité, brièvement?
Merci beaucoup. Nous allons commencer par présenter certaines activités que nous avons menées dans le cadre de ce projet qui a été financé par la Fondation Arnaud de la Camara. On a commencé par le lancement du projet à Kindu, à Salamabila et à Wamaza. Après ça, nous avons briefé sur le circuit des survivants et établi un mot de passe qu'on appelait Caribou. Après, nous avons commencé à implémenter maintenant la mise en œuvre des activités dans les quatre structures qui ont été sélectionné, entre autres, Kimbaseke 1, hôpital général de référence de Salamabila, camp central et centre de santé de référence de Wamaza.
Dans votre projet, il a été question d'assister 800 survivants. Est-ce que vous avez réussi cet objectif?
Oui, nous avons réussi, madame, jusqu'à ce que nous sommes allés même au-delà de ces 800. Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs, entre autres, la réduction des cas de violences sexuelles dans la zone. Et nous avons dit qu'on va traiter ensemble avec le partenaire, on va traiter 800 survivants de violences sexuelles. Mais dans notre projet, nous sommes allés au-delà parce qu'on a traité 1028 survivants de violences violences sexuelles dans l'espace de 6 mois de notre projet, dans les 4 structures que je venais de vous citer. Nous avons aussi fait la donation des kits de dignité aux survivants. On a aussi payé les factures de soins aux survivants avec d'autres comorbidités, parce qu'il y avait des survivants qui se présentaient avec d'autres maladies. Il fallait qu'ils soient ou qu'elles soient soignées d'abord à ces maladies qu'elles se présentaient avec. Et puis, nous avons fait aussi une grande activité, dont celle de l'élaboration d'un plan de réduction des risques liés aux violences sexuelles, ensemble avec toutes les couches de la communauté.
Quelle a été votre stratégie pour arriver à réussir toutes ces victimes?
Pour arriver à réussir toutes ces victimes, nous avons utilisé une stratégie simple. On avait les ACR, les agents santé de la reproduction. Donc, ce sont les agents qui étaient basés dans la communauté. Et ces agents référaient directement les survivants au centre de santé le plus proche. Parce que dans chaque structure, il y avait des agents santé de la reproduction. Et aussi, arrivé à la structure, il y avait une rapidité de traitement des cas parce qu'on a utilisé un mot de passe.
C'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes?
Oui, c'était une façon d'éviter la stigmatisation de ces victimes. Et aussi, on a augmenté une autre activité, l'activité de planning familial. Parce que une victime, si elle arrive, une victime de violence sexuelle, si elle arrive, et aussi une maman qui vient faire la planification familiale arrive, on ne sait pas si cette maman arrive parce qu'elle est victime ou soit parce qu'elle vient faire la planification familiale. Voilà la manière dont nous avons fait pour éviter la stigmatisation des femmes ou des survivants dans la zone.
Radek Onge, vous êtes venu parce que MSF a quitté la zone. Maintenant là, vous êtes fin projet. N'est-ce pas une façon de laisser ces victimes encore comme des orphelins et orphelines?
Merci beaucoup, madame. Je peux vous dire que c'est une invitation à toutes les organisations humanitaires de venir œuvrer à Salamabila, parce qu'à Salamabila, il y a encore des cas de violences sexuelles. Et au-delà de ça, nous invitons aussi, une fois de plus, nous prions pour que la fondation Arnold de la Camara, celle qui nous a financé, et d'autres congrégations puissent continuer avec la deuxième phase. Parce que si on fait la deuxième phase avec beaucoup de sensibilisation, on espère qu'il y aura une réduction des cas de violences sexuelles dans la zone.
Y a-t-il des difficultés qui ont été enregistrées durant cette période?
Oui, nous avons connu beaucoup de difficultés parce que dans la zone, il y a d'abord l'absence de kit PEP dans la zone santé. Au début de notre projet, nous avons trouvé que 3 kit PEP, il faudra se débrouiller ici et là pour trouver les kits PEP afin de soigner les survivants de violences sexuelles. Et au-delà de ça, les intras aussi de planning familial n'existent presque pas dans la zone santé de Salamabila. Alors c'est une question que j'appelle les autorités, j'appelle les humanitaires afin que cette zone soit aussi renforcée en intrant planning familial.
Jean-Claude Kayumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Merci à Jean-Claude Kayumba Chabani pour son éclairage sur les enjeux liés à la prise en charge de survivants de violences sexuelles dans la province du Maniema. Il répondait aux questions de Florence Kiza Lunga. C'est la fin de ce journal des 18h présenté par Gisèle Cage. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous informer. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour continuer à suivre, comprendre et décrypter l'actualité. Bonne soirée et à l'écoute de Radio Okapi.